Deuxième épître aux Thessaloniciens. Introduction. Les deux épîtres à l'Assemblée des Thessaloniciens ont été écrites pour répondre à des erreurs qui avaient surgi au milieu d'eux au sujet de l'espérance chrétienne, la venue du Seigneur. L'Écriture présente cette grande vérité sous un double aspect. Il y a d'abord la venue du Seigneur pour ses saints, pour les enlever de ce monde, pour être avec lui dans la gloire. D'autre part, il y a sa venue avec ses saints pour les amener, pour instaurer son règne. La première épître présente la venue du Seigneur pour prendre ses saints hors du monde et elle corrige l'erreur qui avait surgi concernant les saints endormis. La deuxième épître présente la venue de Christ avec ses saints et elle corrige les erreurs enseignées concernant les saints encore vivants. L'assemblée à Thessalonique était bien au courant de ce que la venue du Seigneur avec ses saints mettrait fin au jour de l'homme et introduirait le jour du Seigneur. L'apôtre avait déjà fait référence au jour du Seigneur dans la première épître comme une vérité qu'il connaissait bien, chapitre 5, verset 2, et il reprend ce grand sujet dans cette seconde épître, au chapitre 2, verset 2. Ses croyants savaient que les prophètes avaient parlé de ce jour-là comme du grand et terrible jour de l'Éternel. Malachie 4, verset 5. Un jour de détresse et d'angoisse, un jour de dévastation et de ruine, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et d'épaisses ténèbres. Sophonie 1, verset 14 et 15. Ainsi, aussi grande que soit la gloire et la bénédiction du règne de Christ, le jour du Seigneur, qui aboutit au royaume, commencera par des jugements écrasants sur le monde. Il semblerait que l'ennemi ait saisi l'occasion des persécutions et des tribulations traversées par les croyants de Thessalonique pour susciter la pensée terrible que le jour du Seigneur était présent et que les croyants auraient à traverser les horreurs de ce jour avant d'être pris pour être avec le Seigneur. L'apôtre a écrit cet épître pour corriger cette erreur, non seulement au profit de l'assemblée à Thessalonique, mais pour celui de tous les enfants de Dieu qui pensent encore que l'Église doit passer par la grande tribulation avant que le Seigneur vienne pour prendre les saints auprès de lui. En outre, comme toujours quand il corrige une erreur, l'Esprit de Dieu déploie aussi des vérités solennelles et précieuses pour l'avertissement, la consolation et l'affermissement des croyants. Le contenu de l'Épître peut se résumer comme suit. Tout d'abord, l'apôtre console les croyants au milieu de la persécution et les fortifie face à la tromperie de l'erreur en les instruisant dans la vérité. Chapitre 1. Deuxièmement, après les avoir instruits dans la vérité, il expose l'erreur et prédit l'apostasie de la chrétienté et la manifestation de l'homme de péché. Chapitre 2, versets 1 à 12. Troisièmement, il console les croyants en leur rappelant leur portion présente et leur perspective future en contraste avec le jugement à venir de la chrétienté. Chapitre 2, versets 13 à 17. Enfin, il nous instruit quant à une marche pratique conséquente avec la venue de Christ. Chapitre 3. Chapitre 1. La consolation dans la persécution. L'assemblée des Thessaloniciens était troublée et affolée par certaines personnes malveillantes qui avaient saisi l'occasion des persécutions dont ils souffraient pour enseigner l'erreur que le jour du Seigneur était arrivé. Toutefois, avant de donner un éclairage sur cette erreur, l'apôtre, après la salutation, des versets 1 et 2, rend grâce pour l'état spirituel de ses croyants, versets 3 et 4. Les console en présentant la vérité quant au jour du Seigneur, versets 5 à 10, et les encourage par sa prière à leur sujet. Versets 11 et 12. Versets 1 et 2. La salutation. Citation de l'Écriture. Paul et Sylvain et Timothée à l'Assemblée des Thessaloniciens en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Fin de citation. L'apôtre s'adresse à l'assemblée des Thessaloniciens comme étant en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Il reconnaît qu'ils sont dans la jouissance de la pleine vérité du christianisme qui révèle Dieu comme notre Père et Jésus-Christ comme notre Seigneur. De même, l'apôtre pouvait écrire à l'assemblée à Corinthe, « Pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, duquel sont toutes choses, et nous pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par lui. 1 Corinthiens 8, verset 6. Il désire pour ses saints la grâce pour endurer leur persécution et la paix pour mettre à l'abri leur cœur en dépit de leur tribulation. Versets 3 et 4. Des actions de grâce à leur sujet. Citation de l'Écriture. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères, comme il est juste, parce que votre foi augmente beaucoup et que l'amour de chacun de vous tous, l'un pour l'autre, abonde en sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions de vous dans les assemblées de Dieu au sujet de votre patience et de votre foi dans toutes vos persécutions et dans les tribulations que vous supportez. Fin de citation. L'état spirituel de cette assemblée était tel qu'il était convenable que l'apôtre remercie Dieu à leur sujet. Il pouvait y avoir de l'ignorance requérant de l'instruction, de l'erreur nécessitant une correction, et même du désordre dans la marche de certains individus. Mais comme toujours, l'apôtre se plaît à commencer par reconnaître ce qui est de Dieu parmi les siens, avant de s'occuper de leur ignorance et de leur manquement. Il est remarquable que l'apôtre rende grâce pour les fruits de l'œuvre de Dieu dans les saints, leur foi et leur amour. Dans ce passage, il ne remercie pas Dieu pour la connaissance de la vérité qu'ils avaient acquise, ni pour leur zèle à sonder la parole, mais pour les effets de la vérité vue dans leur vie. De même, en écrivant aux croyants d'Éphèse, il ne remercie pas Dieu de ce qu'ils étaient entrés dans les plus hautes vérités en rapport avec les conseils de Dieu, mais il remercie Dieu pour la mesure dans laquelle la vérité les avait affectés, comme en témoignait leur foi dans le Seigneur Jésus et l'amour pour tous les saints. Éphésiens 1, versets 15 et 16. Voir aussi Colossiens 1, versets 3 et 4. De manière très heureuse, l'assemblée était caractérisée non seulement par la foi en notre Seigneur Jésus, mais par une foi qui augmentait beaucoup. Et elle était aussi caractérisée non seulement par de l'amour l'un pour l'autre, mais par un amour qui abondait. De plus, ce n'était pas seulement qu'il y avait des personnes dévouées parmi eux, mais l'apôtre parle de l'amour de chacun de vous tous, l'un pour l'autre. Il y avait donc chez ces croyants de Thessalonique un témoignage très heureux à ce que l'assemblée devait être selon la pensée de Dieu, une compagnie de personnes dont Christ est le seul objet de la foi et où prévaut l'amour divin. Dans une telle compagnie, il n'y avait pas de place pour les mesquineries de la chair qui aime à s'élever, ni pour sa jalousie, ni pour sa malice. Dans une telle compagnie, la confiance les uns dans les autres abondait, la réputation de chacun était sauve, et tous cherchaient le bien des autres. Dans ces versets d'introduction, comme dans la première épître, l'apôtre ne dit rien de leur espérance. Celle-ci s'était probablement un peu obscurcie par le faux bruit selon lequel le jour du Seigneur était déjà présent. Le but recherché par cette épître était de raviver leur espérance de sorte que, plus loin, il peut terminer la partie corrective de son épître en leur rappelant la consolation éternelle et la bonne espérance donnée par grâce. Chapitre 2, verset 16. Une assemblée où la foi augmente et où l'amour abonde n'échappera pas aux attaques de Satan, à l'époque comme aujourd'hui. Nous apprenons ainsi qu'il traversait des persécutions et des tribulations. Néanmoins, Dieu permettait ces difficultés pour tester leur foi, car l'épreuve de la foi produit la patience. Jacques chapitre 1, verset 3. Pour les croyants de Thessalonique, les efforts de Satan n'avaient été qu'un moyen de manifester leur foi en Christ, leur amour les uns pour les autres, et leur patience dans l'épreuve. De telles qualités suscitaient les actions de grâce de l'apôtre envers Dieu et lui permettaient de se glorifier d'eux dans d'autres assemblées. Tous les efforts de l'ennemi ont pour but d'affaiblir la foi en Christ, de briser l'amour l'un pour l'autre et de produire de la rancune plutôt que de l'endurance patiente. Au milieu des épreuves particulières des derniers jours, il se peut que nous soyons épargnés, dans nos pays, de la persécution active. Néanmoins, nous aurons de la tribulation. Dans un jour de confusion et de dispersion parmi le peuple de Dieu, les épreuves que nous avons à affronter proviennent davantage de la chair qui s'étale sous différentes formes à l'intérieur du cercle du peuple de Dieu plutôt que de l'opposition externe. Dieu permet de telles épreuves pour produire la patience. Trop souvent, hélas, nous manquons la leçon que Dieu voudrait nous enseigner en étant offensés par l'épreuve et en rendant mal pour mal et outrage pour outrage. Dans de telles circonstances, Dieu peut permettre à l'épreuve de continuer ou, s'il la fait cesser, nous manquons la bénédiction qu'il avait en réserve et nous aurons à passer par d'autres épreuves. C'est une bonne chose si nous prenons toutes les épreuves de la part de Dieu et pour Dieu. Après avoir tout remis à Dieu, nous apprendrons alors la patience, qui amène déjà maintenant une grande bénédiction pour nos âmes et dans le jour à venir une récompense brillante en gloire. Versets 5 à 10. Le royaume de Dieu est le jour du Seigneur. Citation de l'Écriture. Lesquelles, tribulations, sont une démonstration du juste jugement de Dieu pour que vous soyez estimés dignes du royaume de Dieu pour lequel aussi vous souffrez. Si du moins c'est une chose juste devant Dieu que de rendre la tribulation à ceux qui vous font subir la tribulation, et que de vous donner, à vous qui subissez la tribulation, du repos avec nous dans la révélation du Seigneur Jésus du ciel, avec les anges de sa puissance, en flammes de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels subiront le châtiment d'une destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et de devant la gloire de sa force, quand il viendra pour être, dans ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage envers vous a été cru. Fin de citation. La référence aux persécutions et aux tribulations que ces saints traversaient conduit naturellement l'apôtre à parler du royaume de Dieu et du jour du Seigneur par lequel le royaume sera introduit, et ainsi à préparer ses saints à détecter et refuser l'erreur qui les troublait et dont l'apôtre parle au chapitre 2. Premièrement, au verset 5, nous apprenons que le royaume à venir rendra manifeste le juste jugement de Dieu alors qu'il permet que les siens traversent la persécution et les tribulations. Les beaux traits que ces croyants manifestaient au milieu de la persécution et des épreuves démontraient qu'ils étaient dignes d'avoir place dans la gloire à venir du royaume. C'était le maintien des principes du royaume qui les amenait à souffrir, et la souffrance était permise en vue des récompenses et des gloires du royaume. Deuxièmement, au verset 6, dans le jour à venir, la justice de Dieu sera aussi vue en ce qu'il donnera la rétribution de la tribulation à ceux qui auront tourmenté les siens. Cette vérité est de la plus grande importance en ce qu'elle montre que nous devons attendre un jour futur pour la solution finale du juste gouvernement de Dieu. La justice de Dieu, que ce soit en récompensant ceux qui font le bien ou en jugeant ceux qui font le mal, n'est pas visible en entier dans cette vie, comme les amis de Job le prétendaient à tort. Pour le moment, le peuple de Dieu doit souvent endurer de la souffrance, tandis que les méchants prospèrent. Néanmoins, dans le monde à venir, tout sera réglé, et il sera démontré devant les hommes et les anges que Dieu n'a pas été inattentif aux souffrances des siens à travers les âges, ni n'a été indifférent à la violence et à la corruption de leurs ennemis. Tous les genres de persécutions et d'épreuves, que ce soit de la Rome païenne ou de la Rome papale, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur du cercle des chrétiens professants, seront finalement remis en mémoire pour être exposés et jugés. À la lumière de ce jour-là, le peuple de Dieu souffrant n'a pas besoin d'être indigné contre ses ennemis. Il n'a pas besoin de chercher à être vengé ou à se défendre. Il n'a qu'à attendre le moment de Dieu où tout sera traité en parfaite justice. Troisièmement, au verset 7, le jour à venir de tribulation pour le monde sera un jour de repos pour les croyants qui auront été tourmentés dans ce jour de grâce. L'apôtre peut donc parler à ses saints éprouvés de repos avec nous dans ce jour-là. Quelqu'un a dit « Maintenant, ce sont les saints qui sont tourmentés. Alors, ce sera le monde. Maintenant, les saints souffrent dans les mains du monde. Alors, le monde sera puni par la main du Seigneur. » Quatrièmement, nous apprenons que le repos des saints et la tribulation du monde seront introduits par le jour du Seigneur, le jour de la révélation du Seigneur Jésus du ciel avec les anges de sa puissance. Lors de sa première venue, en humiliation et en grâce, les anges ont annoncé la bonne nouvelle et une multitude de l'armée céleste étaient là pour célébrer sa louange et annoncer la bénédiction pour l'homme et la gloire pour Dieu. À sa seconde venue, il sera révélé manifesté en puissance, et les anges de sa puissance seront de nouveau présents, mais pour exécuter le jugement sur un monde qui a rejeté sa grâce. Cinquièmement, versets 8 et 9, nous apprenons que, lors du jour du Seigneur, la vengeance divine tombera sur tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les nations ont le témoignage de la création par laquelle la puissance éternelle et la divinité de Dieu peuvent être connues, voir Romains 1, versets 19 et 20, Psaume 19, versets 1 à 6. Elles ont rejeté le témoignage de la création, sont tombées dans l'idolâtrie et se sont corrompues par toutes les convoitises imaginables. Dieu n'est pas passé par-dessus tout ce mal. Il s'en occupera dans le jour du Seigneur. Leur ignorance de Dieu est une ignorance qui a eu l'opportunité de la connaissance, mais qui l'a rejetée. Sixièmement, versets 8 et 9, il y a ceux qui ont entendu l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, un témoignage beaucoup plus élevé que celui de la création, car il contient la révélation de l'amour de Dieu. Ceux-là seront traités selon la lumière et les privilèges qu'ils ont eus. Mais si les hommes rejettent le témoignage de la création ou le témoignage de l'évangile, cela implique leur destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et de devant la gloire de sa force. Ils n'ont vu aucune gloire dans son humiliation en grâce pour être sauvés. Ils ne connaîtront rien de la gloire du jour de sa puissance. Septièmement, verset 10, par-dessus tout, le jour du Seigneur sera le jour de la gloire et de l'exaltation de Christ quand il sera glorifié et admiré dans tous ceux qui auront cru. Versets 11 et 12. Une prière pour les croyants. Citation de l'Écriture. C'est pour cela que nous prions aussi toujours pour vous, que notre Dieu vous juge digne de l'appel et qu'il accomplisse tout le bon plaisir de sa bonté et l'œuvre de la foi en puissance, en sorte que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Fin de citation. L'apôtre termine la partie introductive de l'épître par une parole d'encouragement pour ses croyants en leur parlant de ses prières pour eux. Il a placé devant nous le repos et la gloire du royaume à venir auquel nous sommes appelés en association avec Christ. Maintenant, il prie pour que les saints puissent être trouvés en train de marcher d'une manière digne de cette haute vocation. Si nous entrons plus pleinement dans la réalité et la grandeur de cet appel, appel à être associé avec Christ dans la gloire, nous serons davantage entièrement séparés de ce monde et de ses gloires passagères. De plus, l'apôtre prie pour que Dieu accomplisse en nous tout le bon plaisir de sa bonté. Nous ne sommes pas laissés ici-bas pour faire plaisir à la chair. Notre grand privilège est d'être ici-bas pour le plaisir de Dieu. Le Seigneur, dans la perfection de sa voix, pouvait dire « Je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Jean 8, verset 29. Hélas, trop souvent nous faisons les choses qui nous plaisent. À la lumière de l'exemple du Seigneur et de la prière de l'apôtre, nous pouvons bien nous remettre en question et nous demander « Nos pensées, nos paroles, nos voix, notre marche, sont-elles agréables à Dieu et selon le bon plaisir de sa bonté ? » Rappelons-nous que son plaisir ne peut être que bon et pour notre bien. En outre, l'apôtre désire que l'œuvre de foi, ce que Dieu nous a donné à faire, soit effectuée par la puissance donnée par lui. Verset 11. La puissance est nécessaire pour poursuivre l'œuvre de la foi. Nous voudrions la puissance pour faire face à nos ennemis et à tous ceux qui s'opposent à nous et nous insultent. Mais ceci est la tâche du Seigneur, qui s'en occupera par la gloire de sa force, quand il sera révélé. Verset 9. Enfin, l'apôtre désire que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans les saints déjà maintenant. Christ sera glorifié dans ses saints dans le jour de sa gloire. Mais c'est le bon plaisir de Dieu que le nom de Christ soit glorifié dans les siens dans le jour de son rejet. La chair voudrait se glorifier elle-même, et en présence de l'opposition et des insultes, nous voudrions nous défendre nous-mêmes. Mais notre affaire et notre privilège sont de ne penser qu'à ce qui est pour la gloire de Christ. Sa gloire demande que nous agissions comme il a agi, lui, qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas d'outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement. Cela exige une grande grâce, et par conséquent l'apôtre termine sa prière en souhaitant que nous glorifions Christ selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de puissance pour l'œuvre du Seigneur, et de grâce pour glorifier Christ. Cette première partie de l'Épître place ainsi devant nous une belle image des qualités morales que Dieu désire trouver dans les assemblées des siens. Il voudrait qu'elles soient toutes marquées par une foi en Christ croissante, par un amour qui abonde l'un pour l'autre, par la patience au milieu des épreuves, par une marche digne de notre vocation, notre appel, par la recherche constante de son bon plaisir, par la persévérance dans l'œuvre de la foi et, par-dessus tout, par un état qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons à quel point nous sommes en dessous de ce niveau, mais au moins n'ayons rien devant nos âmes qui soit inférieur au modèle parfait.